Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023. Alors bien sûr, le vendredi 13, ça fait super peur. Mais bon, visiblement, je vous rassure, le marché s'en contrefou. Parce qu'aujourd'hui, on a une confiance en nous qui est assez surprenante. On a eu des chiffres hier de l'inflation qui auraient pu, dans un autre monde, nous secouer un tout petit peu. Mais non, on reste quand même très très fort en termes de maîtrise. Alors oui, les indices ont baissé quelque peu, mais vraiment pas de quoi paniquer. C'était même une journée hyper soporifique. J'ai passé beaucoup de temps devant mes écrans hier à essayer de me dire qu'est-ce qu'on pourrait traiter là au milieu. Est-ce que la publication du CPI va générer de la volatilité? Donc en fait, que dalle. Il s'est vraiment pas passé grand-chose. Un range de 50 points max sur le S&P 500. Enfin, pas de quoi se retourner la nuit. On a juste passé notre temps à analyser les chiffres du CPI. À en retirer pas grand chose de plus qu'avant, mais par contre, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Monsieur Krugman a encore parlé, Monsieur Roubini a encore parlé, et quand on les écoute parler, d'un côté, tout va super bien, et puis de l'autre côté, comme d'habitude, ça c'est Monsieur Roubini, la fin du monde approche parce qu'on n'a pas compris encore ce qui allait se produire, et que le S&P 500 doit aller directement à 333. 333 tout court, hein, pas 4333. Ça, c'est du Roubini tout craché. Non, mais j'exagère. Mais toujours est-il qu'effectivement, hier, on a beaucoup écouté les gens, beaucoup réfléchi. Et pour être franc, ce matin, là, à l'ouverture, avec les futurs en hausse de 0,1%, j'ai pas l'impression qu'on est beaucoup plus avancé qu'avant. Alors en fait, hier, la publication du CPI, c'était plus ou moins le dernier truc qu'on attendait au niveau de la macro. C'était un peu la dernière annonce avant qu'on commence vraiment à se concentrer sur les chiffres du trimestre. Puisque oui, vous le savez, aujourd'hui, c'est la date de lancement officielle des chiffres trimestriels. Même si hier, on a déjà eu deux publications qui étaient assez drôles. La première, c'était Delta qui a annoncé que tout va bien, que les chiffres étaient meilleurs que les attentes, que les projections étaient super et que la croissance du business du transport aérien était en pleine forme et le titre a perdu plus de 2%. Et puis en même temps, il y a eu Walgreens qui eux a annoncé un trimestre tout pourri, des chiffres en dessous des attentes et des perspectives dégueulasses et le titre prenait 7%. Ça nous laisse déjà une bonne idée de ce qui va nous attendre pour cette saison des résultats puisque visiblement quand c'est bon, c'est pas bon et quand c'est très mauvais, c'est excellent. Mais en tous les cas, ce que nous avons fait hier, c'est se concentrer bien sûr sur les chiffres du CPI. Alors je vais essayer de faire simple. Comme d'habitude, le CPI où on intègre rien dedans, c'est-à-dire pas les trucs qui montent, on prend que les trucs qui n'ont pas bougé, eh bien, il n'a pas bougé, il est sorti à 3,6% annualisé, et le corps, ben, lui, il montait un petit peu plus fort que les attentes. Bref, ce qu'on voit surtout, c'est que la croissance des prix ralentit. Donc, ça continue à monter, hein, les prix à la consommation continuent à monter, mais moins vite qu'avant. Et c'est ça que tout le monde trouve absolument génial. Donc, du coup, on a passé notre temps à analyser ces chiffres, mais ils montrent quand même que, pour l'instant, ça a de la peine à ralentir. Hein. Et comme ça a de la peine à ralentir, on commence à se dire que ça va être difficile d'atteindre ces 2%. Alors, on a quand même de l'espoir, puisque je lisais 2-3 trucs dans les journaux hier qui disaient qu'on a quand même pas mal de probabilités d'atteindre les 2% d'inflation comme Monsieur Powell en rêve depuis des mois dans ses rêves les plus fous d'ici 12 mois. Donc je rappelle quand même qu'il y a 6 mois en arrière, on s'attendait à avoir l'inflation à 2% au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est dans 6 semaines. Et grosso modo, on est loin d'y arriver. Et puis quand on regarde le prix de certains biens de consommation assez classiques, comme par exemple l'assurance voiture, qui elle est en hausse de 18,9%. Il y a aussi le prix des réparations automobiles, qui est en hausse de 10,2%. Il y a les transports publics, qui augmentent de 9,1%. Les loyers, bien sûr, sont en hausse de 7,4%. Et puis les coûts liés à la propriété, quand vous êtes propriétaire, vous avez une hypothèque sur votre maison, ça c'est plus 7,1%. La restauration et la nourriture à l'emporter sont en hausse de 6%. Et puis la viande de bœuf et la volaille en moyenne sont en hausse de plus de 5% sur une période annuelle. Donc en gros, ça veut quand même dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en forte hausse. Je vous parle pas du jus d'orange, je vous parle pas des œufs, je vous parle pas de l'essence. Donc tout ça, c'est un petit peu caché dans les chiffres du CPI qui nous disent tout va bien. Et d'ailleurs, pour corroborer ce fait que tout va bien, Hier, donc, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, Monsieur Krugman a parlé. Alors, Monsieur Krugman, chroniqueur économiste au New York Times, économiste américain, et puis prix Nobel d'économie, qui a déjà fait parler de lui il y a quelques jours avec le fait que l'inflation était sous contrôle et complètement vaincue. Et il est revenu aujourd'hui, il en a remis une couche, et il a dit...
La guerre contre l'inflation est terminée, et nous avons vaincu, et ça nous a pas coûté très cher.
J'invente rien, c'est exactement ce qu'il a publié sur X hier soir, pour annoncer que finalement la victoire était la nôtre et que Monsieur Powell était un génie et que lui il avait anticipé tout ça déjà. Bref, en tout cas, génial. Donc on peut quand même se poser des questions sur le fait qu'il soit complètement sain d'esprit parce qu'il a utilisé effectivement que le core CPI, donc celui qui ne tient pas compte des choses importantes. Et d'ailleurs, la première réponse à laquelle il a eu droit sur Twitter, c'est quelqu'un qui est venu lui dire « Oui, alors c'est une fantastique nouvelle pour les Américains qui n'utilisent pas leur voiture, qui n'ont pas besoin d'un toit et qui ne mangent pas. » Donc voilà, c'est une excellente nouvelle qui a été publiée par Monsieur Krugman, qui est en train de se faire humilier par la plupart du marché, qui pense qu'il a un tout petit peu... bizarre dans sa tête de nous sortir des trucs pareils. Résultat, eh bien, les avis sont partagés, mais on pense encore qu'il y a pas mal de chemin à parcourir pour régler cette problématique de l'inflation. Bref, tout ça pour dire que l'inflation, c'est réglé. On va pouvoir passer à autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du marché s'attend que dorénavant, il n'y aura pas de hausse des taux lors du prochain meeting de la Fed le 31 octobre et le 1er novembre. Et mais par contre, on commence à se préparer psychologiquement à une éventuelle possibilité de voir les taux monter au mois de décembre lors du dernier meeting de la Fed pour 2023. Donc voilà, comme je vous le disais, on a clôturé cet épisode macro et maintenant on va se concentrer sur l'épisode micro puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous aurons les publications de JP Morgan, de Citigroup, de Wells Fargo, de BlackRock et de United Healthcare, c'est les banques qui vont publier aujourd'hui. United Healthcare n'est pas une banque, mais les autres, oui, plus ou moins. Enfin, BlackRock, c'est autre chose. Mais l'un dans l'autre, ils vont publier aujourd'hui. Et on va officiellement lancer la saison des résultats. Alors, de nouveau, question d'interprétation, on verra. Et ça va nous occuper un petit peu, puisqu'on va avoir un espèce de trou jusqu'à la période de la Banque Centrale Américaine qui commencera. Donc, il y aura une black période autour du 20 octobre. Le 20 octobre, c'est quasiment la semaine prochaine. En plus, il y a les vacances entre deux. Bref. Ça va être un petit peu plus calme, mais on va se concentrer sur les chiffres du trimestre en tous les cas. Et puis alors, dans le reste de ce qu'on parle pour l'instant, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Hier, on a vu une volatilité en baisse, on a vu un marché extrêmement calme. Comme je vous le disais ce matin, les futurs sont légèrement en hausse, l'or ne fait pas grand-chose, le Bitcoin remonte un tout petit peu. Donc on s'occupe de se concentrer sur les économistes, sur les déclarations des uns et des autres. D'ailleurs, on continue avec l'épisode Krugman, puisque Monsieur Krugman a également déclaré, en plus de son tweet sur l'inflation, qu'il avait la solution pour régler le problème du budget américain. Il suffisait, par exemple, d'augmenter les impôts et les taxes, ou alors de couper toutes les subventions sociales. Heureusement, il a dit « ou », hein, parce qu'il aurait pu dire les deux, hein, augmenter les impôts, les taxes et couper les subventions sociales. C'est clair que quand le gouvernement américain ne payera plus rien à personne, forcément, à un moment donné, eh bien, le déficit devrait diminuer. Mais en tous les cas, visiblement, je ne sais pas ce qu'est en train de chercher M. Krugman, mais avec ce genre de déclaration faite en ce moment, dans un pays qui est relativement divisé, mais divisé au niveau politique, puisque finalement, ils n'arrivent déjà même pas à se mettre d'accord entre républicains et républicains, ou démocrates, alors républicains-démocrates, c'est mission impossible. La moitié du pays est séparée entre le nord et le sud, quasiment. Et puis Krugman, il vient nous sortir des trucs pareils. Je pense que lui, il va se faire jeter des pierres dans la rue dans pas longtemps. Mais heureusement, pour nous occuper, on a aussi eu Monsieur Roubini qui est venu parler hier et nous mettre en garde en disant « Attention, attention !» Et les marchés n'ont pas encore complètement intégré la possibilité éventuelle d'une guerre beaucoup plus étendue au Moyen-Orient. Non, effectivement, on l'a toujours pas intégré. Parce que quelque part, on espère quand même que ça va se limiter, enfin, que ça va s'arrêter rapidement déjà, mais que ça va se limiter à cette région et que ça va pas s'étendre plus loin parce que forcément, oui, s'il commence à se tirer dessus à coup de bombe nucléaire, je pense que quand même cette fois, on aura notre Black Swan et que le marché va pas forcément bien l'apprécier. On n'en est pas là, bien heureusement, mais en tout cas, Monsieur Roubini a saisi l'occasion de venir faire parler de lui encore une fois avec un scénario catastrophe. Et puis alors, on va terminer avec un tout petit point sur la dette américaine. Oui, parce que la dette américaine reste un souci quand même, on en parle régulièrement, même si on se dit oui, mais de toute façon, ils s'en sortiront toujours. Bon, bah quand même, ça augmente un tout petit peu. Il faut noter que depuis que M. Biden et M. McCarthy se sont mis d'accord en juin pour faire sauter le plafond de la dette et botter en touche jusqu'en janvier 2025, Eh ben depuis, visiblement, c'est open bar. Hein. Tout le monde se sert dans le package et la dette augmente, 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 augmente. Alors, grosso modo, on en est là à 1000 milliards d'augmentation tous les 45 jours. Depuis que le plafond de la dette a sauté, on est monté déjà de pratiquement 1 500 milliards. Et là, gentiment, on approche les 33 550 milliards de dettes. Et donc, à ce rythme-là, c'est tous les 45 jours qu'on augmente de 1000 milliards. Et la prochaine fois que Washington va s'occuper du plafond de la dette, ce sera en janvier 2025, lors de la prestation du prochain président américain, qui a priori devrait être ni Monsieur Biden, ni Monsieur Trump. En tous les cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la dette continue à monter progressivement, mais que l'on se rassure, hein, tout le monde s'en fout pour l'instant, parce qu'on est concentré sur le fait que pour l'instant, la Fed est peut-être en train de gagner son combat contre l'inflation. Voilà, donc on termine une semaine assez particulière, de nouveau avec beaucoup de chiffres, beaucoup d'interprétations. Et finalement, j'ai l'impression qu'on n'est pas plus avancé qu'avant, que là, on va essayer de trouver des informations sur les chiffres trimestriels, mais attention aux interprétations, parce qu'on l'a déjà vu hier soir avec Delta Airlines et Walgreens. C'est pas facile de comprendre comment on est positionné psychologiquement lors de cette nouvelle saison, mais le suspense est donc insoutenable à ce stade-là. Côté chiffres économiques, aujourd'hui, nous aurons le CPI en France et en Espagne, nous aurons aussi la production industrielle en Europe, et puis aux États-Unis, il y aura les prix à l'importation, les prix à l'exportation, et puis surtout, il y aura la confiance du consommateur de l'Université du Michigan. Alors je rappelle pour mémoire que c'est le chiffre le plus clownesque qui existe aux États-Unis parce que c'est basé sur un sondage qui a été fait auprès de 1000 personnes autour du lac Michigan. Sur une population de 360 millions d'habitants qui sont éparpillés un peu partout, mais bien loin du lac Michigan, je suis pas sûr que ce soit très représentatif, mais allez savoir pourquoi depuis des années Wall Street trouve ça passionnant. Voilà ce que l'on pouvait raconter pour ce dernier épisode, ce dernier Morning Bull Live de la semaine. Je m'excuse encore hier de la publication tardive, mais les mystères de Final Cut Pro et de YouTube sont impénétrables. Donc résultat, ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Aujourd'hui, j'espère que ça sera un peu plus tôt. Je vais me précipiter pour aller monter cette vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager. Et de revenir ce week-end, parce que ce week-end, il y aura comme d'habitude le Swiss Bliss. Soyez forts, passez une belle journée et à tout bientôt. Bye bye.